G7, une seule solution. G7, la dissolution. G7, une seule solution. G7, la dissolution.
L'utilité du G7, personne n'y croit plus. Le G7, personne n'en veut plus. C'est un gaspillage d'argent public et la meilleure solution est sa dissolution pure et simple.
G7, une seule solution. G7, la dissolution. G7, une seule solution. G7, la dissolution. G7, une seule solution.
FPP était en direct d'Urdaï avec Juan. Juan, comment ça se passe là-bas?
Bonjour.
Bonjour.
Ça se passe, hier j'étais donc en direct depuis l'espace des jeunes sur Urdaï.
Oui.
Aujourd'hui je suis au FICABA, donc le centre de congrès d'Elun, je suis de l'autre côté de la Bidasso, à la rivière qui sépare artificiellement mon pays en deux.
Mmh.
Et donc ici il y a plein de débats, d'échanges, d'ateliers, avec des petits problèmes bien sûr... technique, des changements de salle, parce que finalement il y a plus de monde dans une salle que dans l'autre,
mmh.
Et finalement tout ça, ça se passe assez bien, des débats très très riches, hein. Hier c'était la journée d'ouverture,
mmh.
Donc il y a eu pas mal de discussions. Dans un instant j'ai fait un petit montage avec des enregistrements que j'ai récupérés,
oui.
Pour parler de la journée d'hier,
mmh.
Ce qui résulte de cette journée d'hier, c'est vraiment la leçon qui a été tirée de cette journée, c'est qu'il faut approfondir vraiment la confluence entre les luttes des différents acteurs,
hein, oui.
pour aller plus loin et pour aller plus fort surtout. Donc hier, pendant que j'étais donc depuis l'espace jeune,
mm-hmm.
le contre-jet commençait ici, donc il y a au FICABA. Et donc vous savez que j'ai fait un petit montage, et en particulier, on va peut-être commencer avec ça. J'ai pas pu enregistrer, mais j'ai récupéré, j'ai lu la déclaration d'ouverture donc de la plateforme du contre G7.
Hein. Oui.
Et ensuite, j'ai donc récupéré des petits enregistrements de ce qui s'est passé hier. Mais je te propose de commencer par ça tout de suite. Hein.
D'accord, on écoute ça.
Alors tout d'abord, ce discours qui a été prononcé par les porte-parole lors de la cérémonie d'ouverture donc d'hier. Je vous le lis. Nous sommes là, c'est un défi. Et c'est déjà la première réussite. On a surmonté les obstacles politiques, mais aussi culturels. Nous sommes là dans notre diversité. Diversité dans nos stratégies et nos modes d'action. Diversité dans les thèmes que nous portons ou qui nous intéressent. Diversité de par nos tailles d'organisation, de la plus petite à la plus grande. Diversité pour ce que nous sommes, associations, syndicats, partis politiques ou citoyens et citoyennes engagés. Notre diversité est notre richesse. Et cette diversité a un sens commun. Elle vise des changements et une transformation sociale. Cette diversité crée des conditions pour affronter les enjeux du futur, pauvreté, crise écologique, les féminicides, les crises humanitaires. Et pour ça, on va discuter, échanger, débattre, par-delà nos langues respectives. On ne le fera pas seulement entre experts et puissants. On le fera en partant de nos expériences. On va échanger, on va avancer avec et pour la majorité que nous représentons, les 99%. On le fera en laissant la place à toutes et tous, celles et ceux qu'on invisibilise au quotidien. Pour ça, nous n'accepterons ni sexisme, ni xénophobie ou toute autre forme d'oppression ou de domination dans nos espaces. C'est en ce sens que nous avons un protocole féministe contre les agressions sexistes et sexuelles. En responsable, nous lançons un appel pour que les victimes et les témoins se sentent en confiance pour dénoncer ces violences. Pour être le plus ouvert possible, afin que chacun puisse s'exprimer et respecter nos diversités, nous avons décidé un consensus d'action. Pour en faire un rendez-vous massif et populaire, nous avons choisi un consensus d'action qui s'appuie sur les principes de non-violence, qui se veut pacifique, inclusif, mais déterminé. À partir de ce consensus, nous serons rassemblés pour trois grands moments, les conférences au FICABA et au cinéma, les ateliers et l'espace jeune à l'école d'Urdaï, la semaine intergalactique du 21 au 23 août. Ensuite, la grande manifestation du samedi 24 pour montrer notre nombre et notre force. Et enfin, les occupations de place le dimanche 25 pour dénoncer l'état de siège de la côte basque et le droit de manifester bafoué. Et pour tout cela, une infrastructure qui permet à chacune et à chacun de pouvoir y participer, le camp à Urugne. Donc ça, c'est la déclaration qui a été faite à l'ouverture, donc par les organisateurs de les plateformes du contre G7. Il y a eu ensuite donc des interventions que, pour le coup, j'ai pu enregistrer, celle-là, et que je vais vous faire écouter tout de suite, donc avec différents participants à ce sommet au contre G7. On commence tout de suite avec des premiers témoignages donc pour cette ouverture du sommet à Ficoba.
Vous savez que ce G7, Emmanuel Macron et les 6 autres chefs d'État qui sont invités, Trump, Merkel et consorts, vont vouloir en faire une grande vitrine des politiques qu'ils mènent. Et ils osent même afficher, avec un cynisme à toute épreuve, que la lutte contre les inégalités comme objectif de ce G7. Évidemment, il est hors de question que nous laissions faire ça, parce que nous savons que lui et les 6 autres chefs d'État invités imposent un système au service des plus riches et des multinationales, qui détruit les droits sociaux, qui aggrave la crise écologique, la pauvreté, les guerres, et qui sont autant de désastres qui poussent aujourd'hui des millions de réfugiés à partir en exil et à se retrouver repoussés et avec des droits piétinés. À ce contre-G7, nous ne nous tairons pas. Nous allons montrer qu'il y a des mouvements sociaux d'ampleur puissants qui s'élèvent contre ces politiques des 7 chefs d'État. Les Gilets jaunes en France, aux mouvements féministes ou écologistes de par le monde, les mouvements anti-répression pour les services publics, en tout cas face à leur propagande, à ces 7 chefs d'État, ce sont ces voix-là que nous voulons faire entendre. C'est un contre-G7 que nous voulons ancrer dans le territoire, qui prend en compte les richesses de ce territoire et notamment les alternatives qui s'y développent, alternatives au système justement imposé par ces 7 chefs d'État. Un contre-G7 ouvert, pluriel, revendicatif et comme ils disent dans Pays Basque, Anguille et Tori, où nous disons à tout le monde bienvenue. Pour réfléchir dans la diversité, à des politiques qui soient, elles, fondées sur la solidarité, sur le respect des droits humains fondamentaux, sur la réponse à l'urgence écologique, car au-delà de notre diversité, eh bien, nous nous appuyons sur des valeurs communes et des espoirs très forts.
Diversité pour ce que nous sommes, associations, syndicats, partis politiques ou citoyennes et citoyens engagés. Diversité dans nos stratégies et nos modes d'action, dans les thèmes que nous portons et qui nous intéressent, par la taille de nos organisations, de la plus petite à la plus grande. Cette diversité, c'est notre richesse. Et c'est cette diversité qui a un sens commun pour nous toutes et tous. Elle vise des changements, elle vise une transformation sociale radicale. Cette diversité, elle crée les conditions pour affronter les paris, les enjeux de demain, du futur, la lutte contre les inégalités, responsabiliser les multinationales, lutter contre l'évasion fiscale, gérer ou réduire la crise écologique, lutter contre les crises humanitaires, être solidaire des migrants qui arrivent en Méditerranée, lutter contre les féminicides. Tous ces enjeux nous concernent et c'est cette diversité qui nous permettra de pouvoir les dépasser. Pour en faire un rendez-vous massif, populaire, nous avons choisi que ce consensus d'action s'appuie sur des principes de non-violence, des principes pacifiques, inclusifs, mais avant tout déterminés.
Il y a eu pas mal d'interventions, je ne vais pas toutes vous les passer maintenant. Émile Jaud, il y a également un membre du mouvement basque sud, Gargoyria Duntasanu, j'ai du mal à dire, qui milite pour une réalisation des pensions des retraités, par exemple. Également la voix féministe qui s'est fait entendre avec Luciana Giotto, membre d'Attaque Argentine, et mouvement du mouvement féministe. Parce que les luttes féministes sont vraiment une composante centrale des luttes en Amérique latine, c'est ce qu'elle a dit. Et je vous fais écouter un petit extrait de l'intervention de Joan Rivière, qui est membre du mouvement de jeunesse pour le climat Fridays of our Future, Pays Basque, et donc qui dénonce le système capitaliste pollueur. Je vous laisse écouter tout de suite.
Les écologiques et climatiques actuelles sont principalement causées par le modèle économique capitaliste et productiviste défendu par le business. Ce modèle vise à accumuler toujours plus de profits par la vente de toujours plus de produits. Pour cela, il exerce une pression exponentielle sur la planète, sur sa biosphère, sur sa capacité à alimenter cette folle machine à croissance en matières premières et en énergie. Il dépasse ses possibilités d'absorption d'énergie produite, notamment des émissions de gaz à effet de serre qui dérèglent le climat. Il faudrait d'urgence mettre en place des politiques massives de sobriété, de partage du travail et des richesses, de relocalisation pour limiter le dérèglement climatique et la perte de biodiversité en cours.
Également l'artisan de la paix Michel Berroco-Higoyen qui s'est exprimé, hein, l'un des premiers artisans de la paix au Pays Basque. Inigo Mijangos, président de Salvamiento Marítimo Humanitario, donc l'ONG qui a frété le navire basque Aita Mari. Donc il a évoqué le drame vécu par les migrants et il a souligné la force de la solidarité. Et puis également le témoignage de Geneviève Leguet. Vous savez, Geneviève Leguet, c'est la gilet jaune niçoise qui avait été blessée par une charge policière lors d'une manifestation le 23 mars dernier. Donc, elle était contente d'être présente à ce contre-sommet et j'ai enregistré un petit extrait de son intervention.
Le 23 mars à Nice, j'étais descendue sur la place Garibaldi pour défendre le droit constitutionnel, le droit de manifester. Déjà, Hollande et Valls commençaient à nous réprimer sur le droit de manifester et Macron continuait là-dessus. Et donc, je trouvais important qu'on défende ce droit. J'avais un drapeau de la paix. La manifestation était calme, bon enfant. Il y avait des gens avec des poussettes. Tout allait bien. Et j'agitais mon drapeau de la paix quand il y a eu une charge policière. Alors, à partir de là, je me réveille de mon état d'inconscience à 6h30 du soir. C'était midi moins le quart.
Alors, il y a aussi des voix... critique, hein, le contre-sommet, c'est aussi un espace d'échange, de dialogue, et tout le monde n'est pas d'accord. Et en particulier, un groupe de gilets jaunes qui est venu de Saint-Nazaire et qui a donc critiqué les modes d'action pacifiques et non violentes des organisateurs de ce contre-sommet, et en particulier donc de la déclaration que je vous ai lue il y a quelques instants, en dénonçant donc le fait que c'est restrictif, c'est réducteur au niveau des formes d'action. Je vous laisse écouter donc ce militant gilet jaune venu de Saint-Nazaire.
L'acceptation de toutes les formes d'action. Ça ne s'est pas fait en un jour, mais à Saint-Nazaire, c'est quelque chose que nous avons réussi. De faire cohabiter dans un même collectif des manières de lutter différentes et complémentaires. Et cela était indispensable pour faire face à la répression féroce que nous avons subie, que ce soit en manifestation ou face à la justice. Et c'est justement pour ça qu'on voulait profiter de cet espace pour réagir au communiqué de la plateforme sur le consensus d'action pour le contre-G7. Nous respectons évidemment le travail énorme qui a été fourni pour nous rassembler ici, mais par ce communiqué, nous y voyons une désolidarisation vis-à-vis de formes d'action qui ont marqué le mouvement des Gilets jaunes et tant d'autres avant lui. Des formes d'action qui impliquaient autre chose que des techniques non violentes et pacifiques, qui ont permis de construire ce mouvement, de le nourrir, et de lui permettre de perdurer. Cette préférence revendiquée ne nous semble pas, comme vous l'écrivez, prendre soin de notre diversité et de permettre à chacun de trouver sa place. En disant cela, soyons clairs, nous ne hiérarchisons pas les formes d'action, ni n'encourageons de suivre telle ou telle voie. Mais nous affirmons une chose, atteindre les objectifs que nous revendiquons ne pourra se faire que dans cette acceptation d'une diversité des formes d'action et dans une solidarité affirmée avec celle-ci.
Écoutez, FPP oui. Contre G7, on retrouve Juan Andaï. Alors, dis-moi.
Voilà, bah, Iloun. Donc, je n'ai pas retrouvé l'invité qui devait être avec moi, mais tant pis. J'espère que si je récupère d'ici là, on va voir.
D'accord.
On sera peut-être un peu plus court aujourd'hui et on ne sera pas demain.
D'accord.
Donc, hier après-midi, donc, j'étais sur l'Ambassada. Donc, l'Ambassada, vous savez, hein, c'est une cabane intergalactique
oui.
qui se trouve au départ au cœur de la ZAD de Notre-Dame des Landes.
Oui.
Et donc, ils sont installés ici sur Andaï. Donc, il y a eu beaucoup de... C'était très animé hier, pas mal de débats, d'échanges. J'assistais donc à une discussion où il y avait des gens qui ont échangé des expériences. Par exemple, une lutte contre un barrage du côté basque sud, donc du côté espagnol, qui a inondé toute une vallée et des villages entiers pour pouvoir produire de l'énergie à grande échelle, dont on n'a pas vraiment besoin ici.
Oui.
Ou une autre lutte également qui est toujours menée ici contre le train grande vitesse au détriment des petites lignes qu'on, par contre, qu'on supprime. Hein. Les gens pourraient travailler, maintenant c'est plus compliqué. Donc, il y a ce type de discussion, d'échange. Du côté de l'école où se trouve l'espace jeune également, il y a eu aussi des débats sur les conditions du travail, enfin, sur plein de sujets. D'ailleurs, hier, pour vous parler de ce qui s'est passé hier, il y a eu quelques petites tensions avec les forces de l'ordre quand même, notamment justement autour de l'ambassade, où une quinzaine de flics, en particulier de la BAC, sont venus pour enlever une banderole qui leur plaisait pas, je sais pas qui leur avait dit. Il y a une banderole avec une guillotine, avec le texte était « Tout est permis contre le G7 », donc ils ont fait, c'est un petit peu violent. Donc il a fallu l'intervention en particulier d'élus d'ici d'Andaille pour ramener le calme et faire partir ces forces de l'ordre. Il y a eu un peu le même type de situation hier aussi sur le village de vie, hein, sur le lieu de ville, le village d'accueil sur Rugne, donc à quelques kilomètres d'ici, où là aussi il y a eu la présence policière et nécessité d'intervention pour leur rappeler qu'ils doivent rester le plus loin possible et éviter les provocations, hein, parce que c'est
ce qu'ils cherchent.
Ce qui se passe. Ouais. Alors on ne sait pas si c'est toujours, c'est peut-être pas toujours des ordres d'en haut, quelquefois les flics ils ont des réflexes perso assez, hein, bon, ouais. On les connaît, si ils ont choisi notre métier. Donc, bon, voilà, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, il y a d'autres actions qui sont menées en même temps que qui se passe ici des débats.
Oui.
Il y a par exemple en ce moment même un rassemblement devant le McDo d'Andaille. C'est aussi un symbole de ce qu'il faut combattre,
hein, oui.
depuis des années et des années. Et malgré tout, on a démonté les McDo, mais ça suffit pas.
Ça suffit pas, non.
Bon, voilà. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire avec cela. Parce que c'est pas seulement une question de bouffe, hein, c'est une question de civilisation, de mode de vie et d'impérialisme.
Hein. Surtout. Voilà. Ouais.
Et puis il y a d'autres actions, par exemple ce soir à Asparin, il y aura un concert sauvage. Pourquoi Asparin? Parce que c'est là où sont installés 200 CRS, hein, et ils couchent dans un collège, le lycée Saint-Joseph. Hein. Eh ben, ce soir, on va organiser un petit concert très très bruyant, histoire de perturber un peu le
sommeil
de ces 200 CRS et de leur rappeler qu'il y a des gens qui sont là dans ce pays et qui luttent. Voilà. Et ils sont peut-être plus fatigués demain, comme ça ils seront peut-être, voilà, je ne sais pas, on verra. Ça devait être fait il y a quelques jours, mais ils ont tardé à venir, donc ça s'est vraiment fait ce soir. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent en dehors du programme. Il y a aussi autour, hein, du contre G7 pas mal de gens quand même qui apportent leur soutien. Je disais hier une déclaration qui a été faite par François Coutan, Jacques Gaillot, donc l'évêque qui a été viré par Rome, Bernard Gauffreau, Noël Mamère et Philippe Pémérieux, donc qui soutiennent. Ils disent nous sommes aux côtés des acteurs du G7 non, des résistants à vie. Toujours du côté de la justice et de la paix, c'est pourquoi les résistants gagnent toujours. Les défis de la justice sociale pour le climat sont au cœur de nos combats partagés. Nous défendons une autre conception du monde fondée sur une démarche non violente. Voilà, donc il y a pas mal de... Voilà. Donc j'espère que ça va prendre de l'ampleur. Donc là, je vais continuer, moi, cet après-midi, sur le PICOBA, donc sur le centre de congrès d'Elun, à participer à différents ateliers, à rencontrer des gens. J'essaierai de prendre des témoignages aussi que je vous pourrai vous passer demain. Donc, donc je guette.
Ton invité n'est pas là.
Mon invité, il est peut-être parti au rassemblement du McDo. Je sais
ah
pas.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc, on va peut-être.
On va. Oui. Donc, de toute façon, ce qu'on fait, c'est que de toute façon, on se retrouve demain à la même heure.
Ok.
Hein?
En attendant, moi, je continue, hein, je reprends mon sac à dos et voilà.
D'accord. Allez. À bientôt, Juan.
Je vous embrasse. Tiapé.
C'est une seule solution. G7, la dissolution. G7, une seule solution. G7, la dissolution.
L'utilité du G7, personne n'y croit plus. Le G7, personne n'en veut plus. C'est un gaspillage d'argent public et la meilleure solution est sa dissolution pure et simple.
G7, une seule solution.
Et oui, on a aussi Un petit reportage qu'on a eu, c'est Annick Coupet qui nous parle un peu justement de ce G7.
Écoutez, oui, ça fait partie des objectifs de ce contre-G7, mais d'abord, c'est, je pense que ce contre-G7, c'est aussi l'idée de montrer que il y a le monde du G7 officiel. Ce que représentent ces sept représentants des parmi les pays les plus riches du monde. Et puis, en face, il y aura le contre-G7 avec une diversité de mouvements sociaux qui vont faire à la fois le bilan des politiques menées cette année, notamment en France, mais aussi d'un plan international, mais aussi, évidemment, parler des perspectives de rentrée, des problèmes qui se posent dans notre pays et plus largement. On va d'ailleurs prendre au mot le G7 officiel, puisque le G7 officiel prétend, et Emmanuel Macron l'a mis beaucoup en avant, lutter contre les inégalités. Pour nous, c'est vraiment un point de vue assez... C'est totalement hypocrite et scandaleux quand on voit le bilan des politiques menées par ces gouvernements. Je lisais hier que les dividendes versés aux actionnaires ont explosé au deuxième trimestre, alors même que la croissance au niveau mondial est en difficulté et qu'une crise financière vraisemblablement peut arriver dans les mois ou les années qui viennent, et peut-être pire qu'en 2008. Donc, et puis je dirais que sur les inégalités, quand même, quand on regarde la politique menée par ces gens-là, en termes... Alors, Emmanuel Macron, sur le plan social, par exemple, on a eu cette année toute la séquence des Gilets jaunes qui ont montré comment les inégalités dans nos pays se développent, comment la question des services publics est abandonnée. Mais je dirais, quelle hypocrisie que Trump parle des inégalités entre les hommes et les femmes, par exemple. Ou la question de la politique d'accueil des migrants, quand on voit que les murs en réel, comme aux États-Unis, se montent, ou les murs légaux et les polices qui empêchent les migrants d'arriver avec des catastrophes humanitaire tel qu'on connaît encore ces jours-ci. Donc franchement, un G7 qui prétend lutter contre les inégalités, alors que même que ce sont les politiques menées par ses dirigeants qui aggravent les inégalités en matière sociale, en matière environnementale, en matière de relations entre les pays. Écoutez, de toute façon, on verra, enfin, je pense qu'il ne sortira pas grand-chose, parce que par ailleurs, il y a des contradictions très fortes, et on est dans une période de guerre commerciale ouverte et très forte, notamment avec la politique menée par les États-Unis, mais pas seulement. Je pense que on est toujours dans une séquence où ces sept pays, c'est les dirigeants de ces sept pays, prétendent d'une certaine façon dominer le monde. Ce qui est complètement anachronique. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une crise systémique, écologique, il y a l'avenir de la planète même est en jeu, il y a une crise sociale extrêmement importante au niveau international, et par rapport à ça, sept pays prétendent diriger et dicter au monde ce qu'il faut faire. C'est complètement... ça n'a aucun sens, et c'est illégitime, c'est antidémocratique, donc de ce point de vue-là, ce G7 se veut, un directoire du monde, mais ça n'a aucun sens en 2019. Et l'autre chose quand même, c'est que je pense que Emmanuel Macron veut sans doute aussi redorer son blason au niveau international en organisant ce G7 avec quand même un faste relativement important, et symboliquement le faire dans la ville de Biarritz de façon complètement hors sol symbolise aussi pour moi le fait que c'est aussi un président hors sol aujourd'hui. En tous les cas, même des grosses ONG qui participent à l'espace de la société civile à l'intérieur du G7 sont aujourd'hui extrêmement critiques. C'est-à-dire que même ces ONG qui jouent le jeu du dialogue...
Qui ont un pied dedans, un pied dehors.
Voilà, pour certaines d'ailleurs, elles sont dans le contre-G7 aussi, disent clairement qu'il n'y a aucun espace de discussion où leurs propositions puissent être entendues par les dirigeants de ces sept pays. Donc effectivement, c'est à la fois quelque chose... Mais c'est en même temps une opération de communication pour ces dirigeants qui, dans leur propre pays... sont en contradiction totale avec cette lutte contre les inégalités, puisqu'ils font complètement le contraire de ce qu'il faudrait faire, que ça soit en matière fiscale, par exemple, si on prenait cet exemple-là. Je disais tout à l'heure que les dividendes versés par les multinationales ont explosé au deuxième trimestre de cette année. Ça montre bien qu'il n'y a aucune politique pour rééquilibrer un tant soit peu la richesse produite dans le monde.
Quel prix
pris. Je suis condamné à faire la manche, à mettre ma fierté de côté. De toute façon, je m'en fous, j'aurai ma revanche à quel prix. Tout ça parce qu'on m'a licencié, que j'ai pas pu payer le loyer, que ma femme m'a quitté à quel prix. Je traîne dans les rues de Paris à chercher un abri. En vérité, je marche sans savoir où aller. Ça fait des mois que je vis dans la rue et c'est pas prêt de s'arrêter. Mes chaussures sont défoncées, j'ai mal aux pieds, je suis pas lavé. En vérité, je suis SDF et j'ai du mal à l'accepter. Pointe au resto du cœur, à l'époque j'étais bénévole. Et maintenant, ces bénévoles, je les bénis de remplir mon bol. La balle humaine et la chaleur, l'espace d'un moment où on colle. Mais cela ne m'empêchera pas ce soir de noyer mon chagrin dans l'alcool. À quel prix, je suis condamné à oublier, à effacer mon ancienne vie. À quel prix, tu condamnais à faire la manche, à mettre ma fierté de côté, de toute façon je m'en fous, j'aurai ma revanche. À quel prix, tout ça parce qu'on m'a licencié, que j'ai pas pu payer le loyer, et que ma femme m'a quitté. À quel prix, je traîne dans les rues de Paris à chercher en vain un abri. À quel prix, tu m'enverras dans mon pays, je suis pas hongrois, je suis français, j'emmerde Sarkozy. À quel prix, Coluche a été trahi par ses enfoirés qui font croire qu'ici pas on est unis. À quel prix, je traîne comme un zombie, regarde ma gueule, 5 secondes depuis 10 ans j'ai vieilli. À quel prix, je me bats pour rester en vie, car j'ai espoir de m'en sortir et dire aux autres j'ai réussi. À quel prix, je suis condamné à oublier, à effacer mon ancienne vie. À quel prix, je suis condamné à faire la manche, à mettre ma fierté de côté, de toute façon je m'en fous, j'aurai ma revanche. À quel prix, tout ça parce qu'on m'a licencié, que j'ai pas pu payer le loyer, et que ma femme m'a quitté. À quel prix, je traîne dans les rues de Paris à chercher en vain un abri. Je crois que je vais le faire, passer les vies à trépas. T'inquiète, je me raterai pas. Je veux seulement finir, ce monde-là n'est pas pour moi. Advienne que pourra. Peut-être que ce soir je vais mourir de froid, sans même avoir pu serrer une dernière fois mes enfants dans mes bras. À quel prix, je suis condamné à oublier, à effacer mon ancienne vie. À quel prix, je suis condamné à faire la manche, à mettre ma fierté de côté, de toute façon je m'en fous, j'aurai ma revanche. À quel prix, tout ça parce qu'on est, que j'ai pas pu payer le loyer, et que ma femme m'a quitté. À quel prix, je traîne dans les rues de Paris à chercher en vain un abri. Personne n'est à l'abri, personne n'est à l'abri. De Mexico à Paris, Mota, Favela, Believing King, c'est la scie.
Et encore une info, justement, c'est pas le G7, mais c'est la même famille. Alors, c'est Chronopost, donc les sans-papiers de Chronopost, okay, justement, qui demandent d'être régularisés parce qu'ils travaillent. Donc ça se passe aujourd'hui, ils sont dans, c'est en permanence, hein, ils sont toujours là. Donc c'est Chronopost Alfortville, deux chemins Villeneuve-Saint-Georges, Alfortville 94. Donc ils sont là, allez les donner un coup de main, les soutenir sur ce piquet de grève qui dure, ça fait un bout de temps déjà. Donc ce soir, ou même maintenant, si vous avez un petit bout de temps dans l'après-midi, allez les voir. Et oui, et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que... on va se quitter, on va se voir demain un petit peu, on va reparler avec Juan et peut-être des infos sur le week-end. Allez, écoutez FPP.